15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout, où nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Vous allez bien?
Très bien, et vous?
Alors, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré au cancer du poumon. Ce cancer qui reste encore l'un des plus meurtriers, eh bien avec notre invité, le professeur Nicolas Girard, coordonnateur de l'Institut du Thorax Curie-Montsouris. Nous tenterons de comprendre comment se développe ce cancer, ce que vivent les malades et surtout comment on peut aujourd'hui le soigner, car dans cette émission, on veut mettre l'accent sur l'espoir que donne aujourd'hui la recherche scientifique et médicale aux patients victimes de cette maladie. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler du syndrome du sac buccal. Vous verrez, un problème qui est souvent entraîné par la prise de médicaments. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler du syndrome pied-main-bouche, cette pathologie bénigne en général, qui touche surtout les petits bébés, mais pas seulement, vous verrez. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission. Catherine Blanc, notre sexologue, répondra aujourd'hui à la question d'une jeune femme sur certaines positions qui lui provoquent des douleurs durant les rapports sexuels.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première, c'est celle de Charlotte, 26 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Moi je fais pas mal de sport et j'ai entendu dire que de manger des pâtes avant un effort physique, c'était utile et que ça serait bon pour l'effort. Est-ce que c'est vrai? Merci de vos réponses.
Alors Jimmy, c'est ce qu'on appelle le régime spaghetti, je crois, chez les sportifs. Alors d'ailleurs, du sportif débutant à l'athlète, de toute façon, tout le monde peut avoir des bénéfices, j'imagine, enfin je crois, hein, à mettre en pratique le fait de manger des pâtes avant un effort, quoi.
Oui, parce que les pâtes sont un très bon carburant, et quand on parle de carburant, on parle de glucides. Il faut savoir que le muscle stocke les glucides sous forme de glycogène qu'il va restituer lors de l'effort, et notamment lors d'un effort prolongé, on va avoir besoin d'un stock plus important. Donc on parle de marathon, mais ça peut aussi être une longue randonnée, une activité physique intense. Et donc rien de mieux que de finalement prendre ces aliments qui ont un index glycémique plutôt faible, comme le riz, les pâtes ou les pommes de terre.
Ça veut dire qu'on parle que des pâtes pour les sportifs, mais qu'en fait il y a d'autres féculents finalement qui pourraient même jouer le même rôle sur les muscles.
Oui, parce que les pâtes apportent surtout de l'énergie glucidique, et puis on en a d'autres qui peuvent apporter du coup des minéraux, des vitamines, des protéines. C'est le cas par exemple des lentilles, des pois secs, des pommes de terre, de la semoule, du boulgour. Bref, le secret réside dans la diversification des féculents, ce qui permettra finalement de maintenir un bon exercice et de maintenir son effort.
Donc on alterne patates, riz, pâtes, tout le temps
le
la même chose.
Le régime d'étudiant, voilà, ça, mais ça marche bien.
Donc pour se préparer au mieux à une grosse course à pied, par exemple, un marathon, on fait comment? Juste la veille, on mange des pâtes ou c'est sur plusieurs jours avant?
Alors, l'idéal, c'est de se faire sur 2-3 jours, ce qu'on appelle une pasta partie.
Moi, je fais ça quasiment toutes les semaines.
Moi,
de
j'ai fait
toute
ça pendant
façon,
toutes mes études.
Sport,
voilà, oui, voilà, c'est un problème. Et les kilos qui vont avec. C'est donc, durant les 2-3 jours qui précèdent, il faut essayer d'apporter environ 70% des apports en sucre contre 50% en temps normal. Et donc, en entrée, salade de pommes de terre, en plat, des spaghettis à la bolognaise.
Ça a l'air
en dessert, on se refait des pâtes et on y va.
Des
bref,
pâtes
on fait ça sur 2-3 jours. Et puis, en règle générale, ça suffit largement.
D'accord. Merci beaucoup, Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Megan, 33 ans. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. J'ai une amie qui m'a parlé d'un révélateur de plaques dentaires. Elle l'utilise pour ses enfants et je me disais que je pourrais l'utiliser pour mon fils pour l'inciter à se brosser les dents davantage. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un petit peu? Merci.
Alors Jimmy, avant d'expliquer ce que c'est que le révélateur de plaques dentaires, on va peut-être rappeler ce que c'est que la plaque dentaire justement, parce que la plaque, c'est pour ça qu'on se brosse les dents tous les jours, c'est pour l'éliminer cette plaque dentaire.
Exactement. La plaque dentaire se forme jour après les repas. Elle est constituée de dépôts qui vont être formés par l'accumulation de résidus alimentaires, de protéines salivaires et de bactéries. Et le problème, c'est que la plaque dentaire, c'est qu'elle est riche en acide et cet acide va abîmer l'émail et sur le long terme va être responsable de caries. Il faut aussi savoir qu'elle est responsable d'une mauvaise haleine. Souvent, on pense que c'est un problème digestif, mais un problème de plaque dentaire peut entraîner cette mauvaise haleine. Et le problème, c'est que même chez les personnes qui se brossent bien les dents, eh ben parfois, on se brosse toujours les dents de la même façon.
Ben oui.
Et donc, on oublie toujours les mêmes zones. Zones sur lesquelles la plaque dentaire va se former et sur le long terme, responsable de caries. Donc, on peut avoir une très bonne hygiène bucco-dentaire et avoir des caries quand même parce qu'on a les mêmes réflexes, notamment chez les enfants. Méfiez-vous, l'enfant qui se brosse les dents seul a souvent le même geste stéréotypé Donc il ne faut pas oublier d'accompagner
aussi,
les enfants.
Hein, c'est vrai.
Et oui, mais c'est encore plus important parce que les enfants ils font moins attention. Donc on ne laisse pas un enfant de 3 ans se brosser les dents tout seul. On l'aide jusqu'à 6 ans. Il faut être derrière et contrôler ça.
Ouais, j'avoue que je vais vous dire un gros secret. Moi, j'ai acheté du révélateur de plaques dentaires il n'y a pas longtemps sur le conseil du dentiste de mon fils. Et on a eu tous des surprises à la maison, en fait.
Ouais.
Alors justement, on va passer à ce produit, donc le révélateur de plaques dentaires. Moi, j'en ai dans mes placards, je viens de vous le confier. En fait, c'est quoi? C'est un colorant qui fait ressortir la plaque, hein, c'est ça?
Exactement, qu'on peut utiliser après un brossage de dents sous forme de bain de bouche. On en existe sous forme de pastilles ou de liquide, ça coûte pas très cher et ça permet de voir les zones où il y a de la plaque dentaire qui s'accumule. Alors il y en a deux types, ceux qui sont d'une seule couleur qui permettent de dire là où
c'était
il y a de la plaque
dentaire.
C'était le rose chez moi. C'est joli, on a les dents roses. Mais
je peux vous dire qu'il y en avait du rose.
C'est pas bon signe en règle générale. Et puis il y a ceux qui sont bicolores qui permettent de distinguer la plaque dentaire ancienne de récente. Et donc l'idéal...
Alors là, c'est l'arc-en-ciel dans la bouche.
Ouais, et là, ça fait peur et là, il faut faire quelque chose.
Alors une fois qu'on a les dents bien rouges, roses ou arc-en-ciel, du coup, on rassure les gens quand même, ça part. Hein,
non, après. Jamais. On garde les dents roses toute la vie et puis finalement, on voit la vie en rose. Donc tout va bien. Non, ça part après un nouveau brossage. Et à ce moment-là, on le fait sur une semaine. Ça permet de bien localiser les zones où il y a le tartre pour insister dessus. Et on n'hésite pas à aller voir le dentiste, pour un soin bucco-dentaire. Une fois par an, c'est le minimum pour un détartrage.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Mégane qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Surtout, n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite avec le docteur Jimmy Mohamed.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed, justement, va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler du syndrome sec buccal. Alors là, je me demande ce que c'est ce truc. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, le professeur Nicolas Girard, pneumo-oncologue, avec qui on va faire un point sur le cancer du poumon. Promis, on va vous donner de bonnes nouvelles. Vous allez voir, il y en a aussi dans cette maladie, qui reste, on le rappelle, dans 80% des cas provoqués par le tabagisme. Allez, en novembre, c'est le mois sans tabac, c'est le moment d'arrêter de fumer. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1,
sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le professeur Girard, avec qui on va faire le point sur les avancées dans le cancer du poumon, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, alors vous nous parlez du syndrome sec buccal. C'est pas glamour comme ça, c'est quoi?
Alors, le syndrome sec, c'est le fait que, tout simplement, on a la bouche sèche liée au fait qu'on ait moins de salive. La salive, elle est sécrétée par 3 paires de glandes salivaires principales au niveau de la mandibule, sous la mandibule, au niveau de la parotide et sous la langue. Et puis, il y a plein d'autres glandes salivaires qu'on dit accessoires, qui sont réparties au niveau de la muqueuse. Il faut savoir qu'avec l'âge, on a une diminution physiologique de la sécrétion de salive. Et il faut savoir que 30% des personnes de plus de 65 ans se disent gênées par un syndrome sec. Donc c'est quelque chose de plutôt fréquent, plus que la salive a un rôle important, notamment dans le développement du système immunitaire. C'est un rôle pour les défenses. Et donc la salive, ça a plus d'importance que ce qu'on croit.
Ah oui, c'est clair. C'est dû à quoi ce syndrome sec buccal, en dehors du fait que vous avez dit, en vieillissant,
voilà,
on a tous un peu ça.
Mais souvent, ce qui est négligé, c'est les causes médicamenteuses. Les médicaments sont les premiers responsables du syndrome sec. Alors bien évidemment qu'il y a certaines pathologies immunitaires qui peuvent donner un syndrome sec, mais les médicaments, notamment les psychotropes, donc tout ce qui est anxiolytique, antidépresseurs, hypnotiques, les tranquillisants, les thymorégulateurs, les neuroleptiques, mais aussi des médicaments qu'on ne soupçonne pas, comme les antitussifs, certains antispasmodiques qu'on prendrait pour des douleurs abdominales, et même certains colires. Donc la première chose à faire lorsqu'on a un syndrome sec, c'est de vérifier ses médicaments.
D'accord, mais c'est pas si grave que ça aussi, d'avoir pas cette salive,
le
on
problème
boit un
c'est
coup,
que,
ça va mieux,
mais
non.
Ça peut être très gênant pour la déglutition, pour la mastication et l'élocution. En plus, les personnes qui ont ce syndrome sec se plaignent souvent de sensations de brûlure, on peut avoir des petites fissures au niveau de la commission labiale, exactement. Et puis une modification du goût des aliments, puisque si vous n'avez pas de salive, les aliments ont moins de goût et donc vous alimentez moins. Et cerise sur le gâteau, si on peut dire, c'est qu'il y a des complications. La première, c'est des mycoses. Mmh. Il y a la salive, parce qu'on a dit que c'était un médiateur, notamment du système immunitaire, mais aussi d'autres infections dentaires. On a plus de caries et d'infections de la gencive. Bref, la salive, ça a une vraie importance.
Alors rassurez-nous, s'il vous plaît, docteur, ça se traite quand même, j'imagine.
Alors oui, la première des choses, vous l'avez dit, c'est de s'hydrater. Il faut s'hydrater correctement, boire, mais aussi arrêter les médicaments, s'il est possible, qui peuvent être en cause dans le syndrome sec.
Docteur, bien
exactement,
sûr.
Avoir avec le médecin. On peut essayer de stimuler cette sécrétion salivaire avec des petits bonbons acidulés ou des chewing-gums sans sucre. Et puis, ne pas hésiter à aller voir le dentiste, on en a parlé tout à l'heure, pour des soins bucco-dentaires, puisqu'on a dit qu'on peut avoir plus de caries et d'infections de la gencive. Bref, si vous avez un syndrome sec, parlez-en à votre médecin.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Et donc, tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le professeur Nicolas Girard. Il est pneumo-oncologue, coordonnateur de l'Institut du Thorax Curie-Montsouris.
15h, 16h,
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Girard.
Bonjour.
Alors d'abord, si on fait cette émission aujourd'hui, c'est parce qu'on est en plein mois sans tabac, une opération de santé publique qui encourage les fumeurs à tenter d'arrêter de fumer au moins un mois, au moins le mois de novembre. Et vous, les spécialistes du poumon, vous avez décidé de profiter de ce mois-là bien pour parler de cette maladie, le cancer du poumon, qui est principalement causé par le tabac, on va en parler. Mais d'abord, quelques chiffres, le cancer pulmonaire en France, ça touche combien de personnes chaque année?
C'est près de 50 000 personnes qui sont touchées par le cancer du poumon chaque année. On parle aussi des décès liés à ce cancer, hein, près de 40 000 personnes. Donc c'est un cancer qui a mauvaise réputation. À juste titre, il fait peur parce que c'est le cancer le plus mortel parmi les cancers fréquents.
Et ça touche plus d'hommes ou de femmes? Il y a une différence entre...
Plus d'hommes, ouais. Parce que justement lié
plus
au tabac,
fumeurs,
et donc il y a
ouais.
plus d'hommes qui sont fumeurs que de femmes. Cependant, le tabagisme est en train de diminuer hein, chez les hommes depuis une quinzaine d'années, alors que chez les femmes, il continue d'augmenter.
Jimmy ?
On sait que le poumon est extrêmement sensible, notamment au tabac, mais il est aussi sensible à d'autres choses dans l'environnement. Il n'y a pas que le tabac qui peut rendre malade un poumon.
Exactement. Hein, le poumon, c'est grand comme un terrain de football lorsqu'on le déplie. Donc, il est en interaction avec tout notre environnement. Alors évidemment, lorsqu'on va consommer du tabac, fumer une cigarette, on va être exposé à plein d'éléments qui vont être potentiellement cancérigènes, mais on est exposé, dès qu'on respire, finalement, à tout ce qui est dans l'air ambiant.
Et juste rappelez-nous, quand même, avant de commencer cette émission, comment ça fonctionne un poumon ? Il faut savoir ça avant de commencer.
Alors, effectivement, le rôle d'un poumon, c'est d'oxygéner le sang, donc d'aspirer l'oxygène, de le faire passer dans le sang et puis de libérer le gaz carbonique à partir du sang jusqu'à l'extérieur. Donc c'est un mouvement continu, on ne peut pas l'arrêter et donc cette interaction avec l'environnement, elle est effectivement permanente.
C'est ça qui le rend très sensible en fait aussi, c'est ce côté dedans-dehors en permanence en fait.
Alors, très sensible et en même temps, c'est un organe qui n'est pas innervé. Donc un cancer du poumon qui va se développer dans le poumon va être invisible pendant longtemps, on ne va pas le ressentir, on ne va pas avoir de capacité à le détecter précocement de façon spontanée. Et c'est ça aussi qui fait peur.
Merci professeur Girard. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on vous dit tout sur le cancer du poumon. Comment peut-on le diagnostiquer? Y a-t-il des signes qui doivent alerter? Pourquoi certains médecins militent pour qu'un dépistage systématique de cette maladie soit mis en place chez tous les gros fumeurs après 50 ans? On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Nicolas Girard. Il est pneumo-oncologue et coordonnateur de l'Institut du Thorax Curie-Montsouris. Alors, professeur, on va parler un petit peu du diagnostic maintenant du cancer du poumon. Quand on est atteint par ce cancer, est-ce qu'il y a des signes vraiment tout de suite qui sont évocateurs et qui doivent faire penser à cette maladie?
Justement, quand la tumeur est petite, il n'y a pas beaucoup de signes. Ça peut être une modification de la toux, ça peut être des crachats, ça peut être cracher du sang, là, qui est un signe évidemment d'alerte, mais la plupart des cancers du poumon sont diagnostiqués trop tard, c'est-à-dire lorsqu'il y a déjà des métastases, parce que ce sont ces métastases qui, elles, vont donner des symptômes de façon très rapide, des douleurs, ce genre de choses.
Parce que ces signes dont vous parlez, là, la toux, les crachats, il y a beaucoup de fumeurs qui ont finalement un peu ça tous les matins,
et
quoi,
oui, c'est bien
donc
ça
on
ne
pense
problème.
Pas tout de suite, on a un cancer, évidemment.
Exactement, et donc la plupart des cancers qui sont diagnostiqués très précocement comme ça, c'est souvent un peu par hasard, parce qu'on fait un scanner pour une autre cause.
Et vous dites qu'on fait le diagnostic trop tard lorsque les lésions sont avancées et donc forcément plus difficiles à traiter. Du coup, vous pensez qu'il faudrait organiser un dépistage de masse de la population comme on le fait pour le cancer du sein ou le cancer de la prostate chez les hommes?
En tout cas, c'est ce que font plusieurs pays, hein, les États-Unis, le Canada, plus proche de nous, les Pays-Bas, qui ont organisé à l'échelle de toute la population ce dépistage du cancer du poumon. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste en faire des scanners de façon faiblement irradiante à des personnes qui sont les plus à risque de faire un cancer du poumon.
Alors c'est qui? On ne fait pas tous les fumeurs, j'imagine.
Eh ben
c'est
non,
qui les plus à risque?
On prend des personnes qui ont plus de 50 ans ou plus de 55 ans et surtout qui ont fumé pendant longtemps. Parce que l'un des points, hein, c'est que le tabagisme, le tabac augmente le risque de cancer du poumon, mais c'est surtout la durée. C'est pas tellement la quantité de cigarettes fumées par jour, c'est surtout la durée de l'exposition.
Oui, même 3 cigarettes pendant 25 ans, c'est déjà trop long.
À la rigueur, 3 cigarettes pendant 25 ans, il y a plus de risques de faire un cancer du poumon que 20 cigarettes pendant un an.
Ah oui, quand même.
Ouais, c'est souvent, parce que les patients pensent qu'en fumant peu, ça ne pose pas de problème. Mais vous dites, on fait des scanners régulièrement. Mais on va en faire tous les combien de temps, mais ça va aussi poser un problème. Parce que qui dit scanner dit rayon, dit radiation, et donc peut-être cancer induit par le scanner.
Alors, dans les études qui ont montré l'intérêt du dépistage, hein, c'est-à-dire qu'en faisant ces scanners de façon répétée tous les ans dans l'étude américaine, tous les deux ans aux Pays-Bas, on réduit la mortalité par cancer du poumon dans le même ordre finalement qu'avec la mammographie dans les cancers du sein.
Vous faites partie des médecins donc, qui militent, on a compris, pour ce dépistage qui soit un peu organisé en France. Ça a des chances d'aboutir un jour en France, ce dépistage un peu systématique chez les fumeurs, chez les gros fumeurs?
En tout cas, il y a tout un problème effectivement d'organisation de ce dépistage, parce que c'est compliqué, parce qu'il faut faire des scanners, parce qu'il faut interpréter ces scanners, parce qu'on peut détecter des anomalies dans le poumon. Justement, cet organe qui est très exposé à l'extérieur, ces anomalies peuvent ne pas être des cancers du poumon. Donc, il y a toute une reconnaissance et probablement l'établissement d'un parcours pour les personnes de dépistage. En tout cas, l'Institut national du cancer est engagé dans une démarche avec ses résultats d'études qui montrent vraiment l'intérêt.
Réfléchis en tout cas à la mise en place de ce dispositif, effectivement. Alors, vous aviez dit tout à l'heure que les cancers du poumon, à peu près dans 80% des cas, c'est causé par le tabagisme. Ça veut dire qu'il reste quand même 15-20% de gens qui ont des cancers, qui n'ont jamais fumé. Ils ont un cancer pourquoi, ces gens-là?
Alors, probablement par malchance, hein, pour des causes liées aux gènes, liées à des dérèglements, vraiment par malchance. Et ces patients ont souvent des tumeurs du poumon qui sont particulières, qui sont liées vraiment à un gène qui se dérégule. Et c'est intéressant sur le plan des traitements, parce que là, on va avoir des médicaments qui vont pouvoir éteindre un peu cet interrupteur qui s'enclenche et qui crée le cancer du poumon.
Jimmy ?
Donc ça veut dire que ces personnes qui auraient un cancer lié à des causes génétiques, si on les dépiste très tôt, on pourrait les traiter et éviter finalement cette mortalité.
Oui, mais en fait, ça ne représente que 15 à 20% des cancers du poumon. Et donc, le contexte du dépistage, c'est plutôt un contexte de santé publique. Et donc, on va s'intéresser aux causes les plus fréquentes, et donc au tabac et au tabagisme.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme il y a des cancers qu'on arrive... vous dites qu'on le détecte souvent trop tard, mais il y en a qu'on dépiste tôt. On les découvre, ils sont petits, on les opère et c'est réglé, c'est guéri. On peut guérir comme ça rapidement.
La chirurgie, opérer le cancer du poumon en enlevant la tumeur et puis un morceau de poumon un petit peu autour, eh bien, ça guérit les cancers du poumon. Alors évidemment, on a dit tout à l'heure, le poumon c'est grand comme un terrain de foot, donc qui a fait une tumeur de 1 cm à un endroit peut en faire une autre à un autre endroit. Et donc ces patients, ils doivent faire l'objet d'une surveillance parce qu'ils peuvent développer d'autres cancers du poumon à la suite d'une première tumeur.
Vous restez avec nous, professeur Girard, on se retrouve après une courte pause.
Europe 1.
Dans un instant, on passe au traitement du cancer du poumon, parce que même si cette maladie a encore souvent un pronostic assez sombre, les choses sont enfin en train de changer. Deux grandes révolutions sont en train de bouleverser la donne. On guérit, en tout cas, on soigne vraiment de plus en plus de malades. L'immunothérapie notamment fait des miracles, on vous expliquera. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur Nicolas Girard. Il est pneumo-oncologue, coordonnateur de l'Institut du Thorax Curie-Montsouris. Alors professeur, on a parlé du diagnostic du cancer du poumon, mais d'abord, voilà, on a ce cancer du poumon qui est là, mais il faut savoir qu'il y en a plusieurs types quand même. Il n'y a pas un cancer du poumon, il y en a au moins deux sortes, c'est ça?
Oui, alors on fait une biopsie, hein, lorsqu'on voit au scanner ou à la radio une anomalie, on va aller faire une biopsie pour regarder au microscope l'aspect de ce cancer du poumon. Il y a deux grands types, il y a les cancers à petites cellules, parce que les cellules sont petites, et les autres cancers non à petites cellules. La majeure partie des cancers aujourd'hui sont des non à petites cellules. Ce sont des tumeurs qui peuvent se présenter soit de façon très localisée, justement on en parlait tout à l'heure, ou justement de façon insidieuse se développer et donner des métastases dès le diagnostic.
Alors on va passer aux bonnes nouvelles quand même, parce qu'il y en a dans le cancer du poumon, et donc au traitement de cette maladie, parce que vous allez le dire si je me trompe, je crois qu'il y a deux grandes révolutions dans le traitement de cette maladie qui sont en train de tout changer. Lesquelles?
Eh bien, pour ces patients justement qui ont des métastases au diagnostic, la majeure partie des patients, 60% des patients. Deux révolutions. La première, les thérapies ciblées. Ces thérapies qui vont aller chercher à éteindre ces interrupteurs particuliers dans ces tumeurs particulières. Et puis l'immunothérapie, qui est beaucoup plus large et qui, elle, cherche non pas à s'attaquer directement à la tumeur, mais à restimuler un phénomène naturel qui est notre défense immunitaire contre le cancer.
Alors, on va détailler ces deux traitements dans un instant, mais ça, ce bouleversement thérapeutique, ces deux révolutions, sont en train de changer la donne depuis combien de temps, là, grosso modo?
Thérapie ciblée, c'est une dizaine d'années, et l'immunothérapie est arrivée il y a 5 ans dans les cancers bronchiques.
Jimmy?
Et qu'est-ce que c'est que la thérapie ciblée? Et puis, je pense que ça touche pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas être traité de cette façon.
Mais non, pour que la thérapie ciblée fonctionne, il faut qu'il y ait la cible. Et la cible, ce sont ces anomalies dans les gènes, ces mutations qui sont particulières et que l'on recherche chez tous les malades au diagnostic d'un cancer du poumon, parce que on peut pas savoir si elles sont présentes à l'avance. Donc on recherche ces mutations, et en France c'est accessible pour tous les patients.
Et ce traitement, j'ai vu une patiente récemment qui avait été traitée par thérapie ciblée. Elle avait un cancer pulmonaire métastasé au niveau du cerveau,
partout,
au niveau du foie, de l'os,
hein.
Donc la maladie était partout. Elle a eu cette thérapie ciblée et en 3-4 mois, plus aucune maladie, ça faisait 2 ans qu'elle est guérie, elle est en rémission complète.
Incroyable.
Mais est-ce qu'on peut espérer ce genre de résultat pour tous les patients traités? C'est-à-dire qu'on a le traitement, ça marche, à la différence d'une chimiothérapie où parfois on peut avoir des échecs.
Oui, la chimiothérapie, elle est décevante parce que justement, elle n'est pas ciblée. Avec les thérapies ciblées, lorsqu'on a la cible, ça marche quasiment à tous les coups. C'est du 90%.
On détecte une anomalie génétique dans la tumeur et si elle y est, on donne ce médicament et ça marche à tous les coups.
C'est comme éteindre un interrupteur. Donc effectivement, ça marche et ça marche souvent très rapidement. Effectivement, en souvent quelques semaines, les patients vont mieux et puis on peut avoir ces réponses complètes, cette disparition complète de la tumeur.
Et la tolérance à ces traitements, elle est comment? Parce que souvent, la chimiothérapie, on parle de tuer une mouche avec un bazooka, donc derrière, on a beaucoup d'effets secondaires. Est-ce que ces traitements sont mieux supportés par les malades?
Alors, ils sont plus ciblés, donc oui, mais ça reste des traitements qui attaquent directement la tumeur et donc forcément, ça fait des traces autour. Et donc, on peut avoir des toxicités qui sont digestives, cutanées, alors qui sont beaucoup moins fréquentes qu'avec la chimiothérapie, mais qui, sur le long terme, parce qu'on parle de traitement à long terme, au bout d'un an, deux ans de traitement, eh bien finalement, ça peut impacter quand même la qualité de vie des patients.
D'accord, donc des traitements quand même moins lourds que la chimiothérapie qu'on connaît tous et qu'on redoute, mais qui existent quand même les effets secondaires. On va passer peut-être à la deuxième révolution, l'immunothérapie. À présent, ça consiste en quoi dans le cancer du poumon?
Mais là, c'est complètement différent parce qu'on ne cherche plus à attaquer la tumeur directement, mais on cherche à utiliser les ressources naturelles de chacun, les défenses immunitaires, contre les cellules cancéreuses. En fait, c'est un mécanisme complètement habituel. Tout le monde fait des cancers en permanence, sauf qu'on est capable de se défendre. Jusqu'à un moment, on n'est plus capable de se défendre. Et l'immunothérapie, elle restimule ces défenses immunitaires pour justement, comme une sorte de vaccin, finalement, que nos propres défenses détruisent les cellules cancéreuses, avec surtout l'idée du long terme, parce qu'une fois qu'on a réappris à reconnaître les cellules cancéreuses et à les attaquer, eh bien, c'est pour longtemps.
Et ça, c'est pour quelle part de malades qui sont atteints d'un cancer du poumon?
Eh bien, aujourd'hui, c'est pour la plupart des patients, ceux qui n'ont pas ces anomalies particulières.
Donc, pour 80% des cancers du poumon, on peut essayer l'immunothérapie.
Exactement. Soit seul, soit en association quand même avec la chimiothérapie.
Jimmy?
Et la tolérance, du coup, elle est comment de l'immunothérapie?
Alors, l'immunothérapie, là encore, elle est très bien tolérée parce que c'est un mécanisme qui est complètement naturel. Parfois, le système peut s'emballer et donner un petit peu des inflammations ou des dérèglements, par exemple, de la thyroïde. Mais finalement, c'est moins de 5% des patients. Donc, c'est vraiment un traitement où les patients ont une vie complètement normale.
Et ça se présente comment? C'est des comprimés, des piqûres?
C'est des piqûres, c'est des injections toutes les 15 jours, toutes les 3 semaines, tous les mois. Ça dépend un peu des protocoles.
D'accord. Et l'efficacité, vous disiez, alors là, c'est peut-être pas du. Pour la thérapie ciblée, si vous avez dit, ça marche à tous les coups. Là, l'immunothérapie, on le donne à 80% des patients et ça marche dans combien de cas?
Ce que l'on sait de l'immunothérapie, c'est surtout cet effet à long terme. Et donc, on double les chances de survie chez les patients atteints de cancer du poumon métastatique. Et puis, si on regarde un petit peu plus loin que ça, eh bien, on parle aujourd'hui de survie à 5 ans dans le cancer du poumon, alors qu'il y a une quinzaine d'années, c'était impossible d'atteindre des survies comme ça.
Donc, ça marche dans la moitié des cas, à peu près des... D'accord. Jimmy?
Et ce qui veut donc dire que peut-être sur le moyen long terme, on n'utilisera plus de chimiothérapie classique. Pour l'instant, on en a besoin, mais on peut peut-être se dire qu'on va de plus en plus cibler la maladie et forcément, on va mieux la traiter.
Alors, probablement qu'il y a des patients pour lesquels l'immunothérapie seule va suffire. Et puis, il y a des patients pour lesquels il faut peut-être donner un tout petit peu de chimiothérapie au début, un petit peu comme pour détruire un peu les cellules cancéreuses et puis que le système immunitaire prenne le relais ensuite.
D'accord. Donc, on n'oublie pas quand même les chimiothérapies classiques. On n'est pas prêt encore à les jeter au placard. Hein,
pas c'est complètement. Ça. Mais on est déjà même dans des études qui posent la question de la durée de l'immunothérapie, parce qu'une fois qu'on a réappris au système immunitaire à fonctionner, on n'a peut-être pas besoin d'un an ou deux ans de traitement. Peut-être que des durées plus courtes de traitement sont possibles.
D'accord. Alors, grâce à ces deux révolutions, ces deux traitements, les thérapies ciblées et l'immunothérapie, on peut dire qu'on a amélioré le pronostic des patients de combien? Combien d'années de survie vous avez gagné? Ça a l'air dingue quand
là,
même.
Là, on a doublé la survie actuellement.
Donc, c'est énorme.
Avec ces immunothérapies, on est dans une situation où, là encore, on a 30% de patients qui sont vivants à 5 ans.
Vous avez un patient là qui vous revient en mémoire, par exemple, qui était condamné, je veux dire, il y a 10 ans en arrière.
Exactement. J'ai en tête un patient qui avait eu une chimiothérapie, puis ensuite qui est rentré dans un protocole avec l'immunothérapie. On ne connaissait pas trop encore ces traitements, mais les études étaient là. Et finalement, ce patient est toujours vivant aujourd'hui et sans traitement. C'est-à-dire que l'immunothérapie a redéclenché une réponse. On a fait 2 ans de traitement, il a arrêté, il est toujours là.
Jimmy?
Et je crois qu'en immunothérapie, vous êtes intéressé aussi à la question du microbiote. Alors ici, on en parle tout le temps, on adore ça. Mais c'est que le microbiote pourrait influencer la réponse à l'immunothérapie?
Eh bien oui, parce que l'immunothérapie, c'est en fait stimuler notre système immunitaire. Notre système immunitaire, c'est un peu l'accumulation de toutes les expériences, toutes les rencontres qu'on a faites. Les rencontres avec les bactéries, les rencontres avec tout un tas de choses. Et le microbiote, c'est aussi un autre grand point d'interaction entre nous et l'extérieur.
Le microbiote, on rappelle, hein, c'est la flore intestinale, ces bactéries ces bonnes bactéries qui sont en nous, en fait.
Qui vivent avec nous et qui, du coup, interagissent avec nos défenses immunitaires et qui peuvent donc stimuler les bonnes cellules, celles qui peuvent reconnaître les cellules cancéreuses après.
Et aujourd'hui, c'est une piste, c'est-à-dire qu'on croit que les gens qui ont un microbiote un peu altéré peut-être c'est ceux qui répondent moins bien au traitement.
Exactement, peut-être que l'efficacité de l'immunothérapie dépend de notre microbiote, peut-être qu'on peut aussi donner des traitements qui modifient le microbiote pour justement le rendre plus actif, stimuler à nouveau notre système immunitaire.
Donc il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Et ça serait quoi la piste, donner des yaourts à boire plein de bonnes bactéries aux patients avant une immunothérapie?
Oui, par exemple, ou donner les bonnes bactéries, celles qu'on ne connaît pas forcément encore, qui vont justement interagir avec le système immunitaire de façon adéquate.
Jimmy?
Donc on a compris qu'il y avait plein de révolutions dans le cancer du poumon, un message plutôt positif. Mais quels sont les enjeux de demain pour le cancer du poumon?
Eh bien, les enjeux, c'est justement de mieux prédire pour quels patients vont fonctionner ces immunothérapies. On a parlé des thérapies ciblées tout à l'heure. Là, c'est facile parce que on a la mutation, on a le traitement en face et ça marche quasiment à tous les coups. Là, pour l'immunothérapie, il y a encore des patients pour lesquels l'immunothérapie ne marche pas ou ne marche pas suffisamment longtemps comme on pourrait l'espérer. Et donc, il faut chercher les marqueurs. Est-ce que c'est les marqueurs qui sont dans le sang? Et ça, ce serait probablement le plus facile pour une utilisation chez tous les malades. Il faut comprendre pourquoi et comment les réponses immunitaires se font réellement. Et c'est probablement différent plus d'un organe à l'autre parce que dans le poumon, c'est probablement pas le même environnement autour des cellules cancéreuses qu'au niveau d'un cancer du sein ou d'un cancer du côlon, par exemple.
Alors pour terminer, je crois que l'intelligence artificielle aussi, c'est une piste de progrès dans le suivi notamment des malades atteints de cancer du poumon. À Curie, vous utilisez un logiciel, enfin il y a eu une mise en place d'un logiciel de télésurveillance qui s'appelle MoveCare et il a montré ce logiciel qui aide à prolonger la survie des patients. Je comprends pas du tout comment ça marche, expliquez-moi.
Eh bien en fait, c'est une sorte de questionnaire très simple que les patients vont remplir une fois par semaine et un algorithme d'intelligence artificielle détecte les modifications faibles dans ces symptômes, des choses que même le patient ne se rend pas forcément compte qu'il tousse plus d'une semaine à l'autre, mais en rentrant le questionnaire, finalement, on va pouvoir déclencher éventuellement une alerte. On va recevoir ces alertes et possiblement appeler le patient, le voir en consultation plus tôt. Donc c'est plutôt un moyen, au lieu de dire je vous vois tous les 3 mois, tous les 6 mois, et puis qu'est-ce qui se passe entre les deux, ben on ne sait pas trop. Là, c'est un moyen d'adapter sur mesure, sur la surveillance, ce qui permet de détecter plutôt des rechutes et donc de les traiter de façon plus efficace.
Des progrès à tous les niveaux. Merci beaucoup, professeur Girard, venu sur notre plateau. Grâce à vous, on n'en sait plus sur cette maladie que l'on craint tous, le cancer du poumon. Et on a vu qu'il y a de l'espoir, vraiment, pour les malades aujourd'hui déjà. Et dans les prochaines années. Merci encore.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique des bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé au syndrome pied-main-bouche, un problème qui touche surtout les bébés, mais pas seulement, vous verrez. On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle d'un syndrome bien connu, surtout des jeunes parents, le syndrome pied-main-bouche. Alors savez-vous de quoi s'agit-il? Quels sont les signes qui doivent faire penser à ce syndrome? Et surtout, comment ça soigne? Notre reporter de choc, Benjamin Lévesque, a été vous poser cette question. On écoute son micro-trottoir.
Je sais pas, le syndrome pied-main-bouche, je sais pas. Les gens qui ont, qui aiment, je sais pas, c'est partie du corps, je sais pas.
Je sais absolument pas ce que c'est.
Des virus sur les pieds et sur les mains?
Main, pied, bouche? Oh, ça me dit rien du tout.
Alors le syndrome pied-main-bouche, ça ne me fait penser strictement à rien du tout.
Un test pour voir la coordination chez les personnes âgées?
Ça me parlerait plus au niveau des enfants, des nourrissons.
Parce que j'imagine que les enfants, lorsqu'ils vont jouer au bac à sable, ou jouent dans la course, ne lavent pas forcément les mains, n'ont pas forcément du coup le même respect de l'hygiène, ou en tout cas la même hygiène imposée.
Ah, quand ils mettent leur pied dans la bouche, leurs pieds et leurs mains dans la bouche.
Parce que je pense qu'ils peuvent plus facilement mettre leurs pieds dans la bouche déjà. Nous, c'est peut-être un petit peu plus compliqué.
Je pense qu'on peut l'attraper à la crèche, à l'école ou aussi à la maison.
Je pense qu'on peut essayer de leur apprendre à se laver les mains, mais après, ça fait partie de leur éducation et de stimuler leur défense immunitaire en chopant un peu des saloperies. Quoi.
Alors, c'est pas parce qu'on met les pieds dans la bouche qu'on attrape le syndrome pied-main-bouche. Jimmy, on va faire un petit point. C'est une infection virale, le syndrome pied-main-bouche, mais qui est causée par quoi précisément?
Oui, vous l'avez dit, c'est une infection virale bénigne, qui est presque obligatoire, c'est-à-dire que quasiment tous les enfants l'auront un jour ou l'autre, comme la varicelle. Et c'est une infection d'un groupe de virus un peu particulier, les entérovirus du type coxavirus.
Ah, j'étais persuadée que vous arriviez pas à le dire.
Oh non, le virus du type coxaki, non, c'est très fréquent. Et c'est une maladie, donc vous l'avez dit, qui touche plutôt les enfants à partir de 6 mois, et puis jusqu'à 4-5 ans, mais un adulte qui ne l'a jamais eu, s'il est en contact avec un enfant qui a un pied main bouche, pourra l'avoir. Parce que le problème, c'est que cette maladie est très contagieuse.
Oui.
Elle est contagieuse avant d'avoir les boutons. Il y a une petite période d'incubation.
Pendant, non, on ne le sait pas. Donc
on ne le sait pas. Mais elle est aussi contagieuse très longtemps après. On estime jusqu'à 12 semaines la contagion après un pied main bouche. Et donc, forcément, ça crée des petites épidémies. En règle générale, Ça survient dans des crèches ou à l'école maternelle. On a ces épidémies soit au printemps, soit en été ou en automne. Mmh. En fait, quasiment toute l'année.
Ouais, c'est ça. Alors, ok, comment on sait de quoi il s'agit. Maintenant, comment on le reconnaît? Il y a une éruption de boutons. Moi, je sais ça parce que ma fille l'a eu l'an dernier. On m'avait pas prévenu que ça durait aussi longtemps, la contagion. Par contre, j'en veux un petit peu mon pédiatre, là. Mais j'ai pas attrapé. Parce que la crèche m'avait appelé pour me dire, venez vite la récupérer. Elle a la varicelle pour la deuxième fois. Ouais. Parce que ça ressemble un peu à ça, finalement.
Exactement.
Hein,
le problème, c'est que ça commence différemment. La varicelle commence très rapidement par des boutons. Puis un bouche commence par de la température qui peut être un peu élevée, 38-39 degrés assez facilement, durant quelques jours, accompagné de symptômes de rhinopharyngite, voire de gastro-entérite.
D'accord.
Donc on ne sait pas trop, on ne comprend pas. Il y a le nez qui coule, la gorge un peu rouge, des selles un peu liquides, parfois des vomissements. Et ce qui permet de faire le diagnostic, c'est cette éruption qui apparaît au niveau des pieds, des mains et de la bouche.
Et il ressemble à quoi alors ces boutons? Parce que moi vraiment, la crèche les avait confondus, alors que ce sont des quand même, notamment il y a même une infirmière, ce sont des boutons qui ressemblent à la varicelle.
Le problème, c'est que pied-main-bouche a évolué avec le temps. Avant, de donner des boutons au niveau des pieds, des mains et de la bouche, donc c'était très facile à reconnaître. Mmh. Et puis avec le temps, le virus a un peu muté et on peut l'avoir un peu partout sur le corps.
Sur les fesses, elle en
avait. Exactement. Donc ça recommence avec une forme de papule, donc des petites taches qui rapidement évoluent vers des vésicules, donc des petites bulles où il y a du liquide.
Comme la varicelle.
Comme la varicelle. Ouais. Et comme il y en a partout, parce que le virus a évolué, on pense que c'est la varicelle. Alors que c'est que pied en bouche.
Et donc, ça se soigne par contre, on est d'accord, mais est-ce qu'il faut consulter?
Alors, consulter c'est mieux car vous saurez ce qui se passe. Parfois, il peut avoir des complications, notamment avec l'enfant qui refuse de manger car il a des boutons dans la bouche. Ça lui fait très mal, donc il faut essayer de le soulager. Je précise juste que pied en bouche, on peut le faire deux fois dans la vie parce que plusieurs types de virus peuvent donner ce pied en bouche. Mais il n'y a pas de traitement antibiotique, pas de traitement antiviral.
C'est
il faut
virus,
un peu de repos et l'éviction scolaire n'est pas obligatoire. On est contagieux, mais très longtemps. Donc ça sert à rien de les laisser à la maison une semaine, ils sont contagieux pendant 3 mois.
S'il y a de la fièvre, on peut donner un peu de paracétamol, j'imagine.
Exactement, et pas d'anti-inflammatoire, contre-indication de l'ibuprofène avec pied en bouche.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Europe 1. Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui avec Catherine Blanc, notre sexologue, on va parler des douleurs pendant les rapports sexuels, cela arrive à certaines femmes. Elle nous expliquera pourquoi et surtout comment les éviter. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie. Bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question d'Aurélie. Je vais vous la lire tout de suite. Hein. J'ai beau être très en désir de mon compagnon, la pénétration est systématiquement douloureuse et dans certaines positions... plus encore. Je ne sais quelle peut être la cause. Pourriez-vous, Catherine, me donner quelques pistes à explorer? Alors, Catherine, Aurélie, apparemment, chaque pénétration a l'air d'être une torture pour elle. C'est fréquent, les douleurs comme ça, lors des rapports sexuels?
Alors, on appelle ça des dyspareunies. C'est fréquent, malheureusement, oui. Pour nombre de femmes, c'est ponctuel ou pour certaines quotidiens. Et donc, il faut essayer de comprendre ce qui se joue pour, évidemment, il n'est pas question d'imaginer une seule seconde que la sexualité puisse s'organiser de telle manière.
Jimmy ?
Est-ce que ça ne pourrait pas être lié tout simplement à un problème de lubrification? Et donc, déjà, utiliser un gel pourrait peut-être rendre le rapport moins douloureux ?
Alors, évidemment que certaines femmes vivent la pénétration douloureuse parce qu'elles ne s'accordent pas le droit de dire non quand elles n'en ont pas envie. Donc, elles sont du coup pas très lubrifiées. Parce qu'effectivement, il faut déjà que le corps soit au rendez-vous du désir de la sexualité pour que la lubrification soit au rendez-vous. Si elle ne l'est pas, évidemment, il faut attendre ou il faut mettre les choses en fonction. Puis, effectivement, si le désir est là, mais que la lubrification n'est pas suffisamment abondante, c'est souvent le cas, notamment pour les femmes en préménopause ou ménopausée, mais même pour des plus jeunes femmes, ça dépend, le stress, enfin il y a plein de raisons à cela, et à ce moment-là il y a des moyens pour que la lubrification soit plus confortable, les gels lubrifiants en font partie. Maintenant, c'est souvent, le vagin, parfois, notamment chez les jeunes femmes, ne manque pas de lubrification, mais c'est pas suffisamment pour qu'il coule à l'entrée du vagin, et le moment de la pénétration embarque les petites et les grandes lèvres en même temps, qui se collent en quelque sorte au pénis et qui font effectivement quelque chose de désagréable. C'est un peu comme si vous rentriez avec la porte sous le bras. Enfin, ouais. On laisse la porte là où elle est, on rentre tranquillement à l'intérieur. Donc effectivement, parfois simplement même de la salive permet de lubrifier ce démarrage, et après les va-et-vient vont ramener la lubrification qui est à l'intérieur du vagin pour pouvoir justement faire que le coït se passe confortablement.
Ça peut être dû à quoi? Est-ce que ça peut être aussi parce que le garçon ne sait pas s'y prendre, qu'il n'est peut-être pas assez tendre avec elle?
Alors, là, une histoire de tendresse, ça peut être plutôt... revient sur l'idée qu'en manque de tendresse, en manque de confort, la lubrification ne se fait pas parce qu'en effet, il est peut-être maladroit, du coup, elle est un peu inquiète et donc ça ne permet pas la lubrification. Maintenant, il faut quand même aussi vérifier qu'il n'y a pas une mycose qui peut être à l'origine, parce qu'une mycose entraînerait automatiquement une irritation. Et certaines femmes les ont de façon assez répétitive parce que leur flore, pour X raisons, alimentaires notamment, ou pour des questions iatrogènes, c'est-à-dire dues à une prise de médicaments, peuvent avoir une mycose qui est récidivante parce qu'un pH trop acide et du coup le terreau pour notamment les candida albicans, qui sont des petites choses assez fréquentes, notamment chez les femmes.
Jimmy ?
Et elle dit qu'il y a certaines positions où c'est encore plus douloureux, donc à contrario, est-ce qu'il y aurait des positions où finalement on aurait un petit peu moins mal ?
Alors, pour répondre à cette question, il faut voir quelles sont les positions qui peuvent être plus douloureuses. Et certaines femmes vont évoquer notamment des positions où le pénis va toucher plutôt la partie dorsale du vagin, puisqu'il faut savoir que le vagin étant une gaine, comme son nom l'indique en termes étymologiques, et qu'il il avoisine d'autres organes. Et selon les positions, eh bien, par voie vaginale, certains organes sont sollicités. Mmh. Et pour peu que le côlon, le rectum soient inflammés, donc il faut aussi veiller à parfois des problématiques qui n'ont strictement rien à voir avec des problèmes gynéco, mais plutôt d'ordre intestinaux, et qui entraînent lors de la pénétration, notamment toutes les positions par derrière, la levrette, qui sont des positions qui vont solliciter plus particulièrement ces zones-là. Alors ça peut être d'autres positions.
Si et le plus confort, du coup, c'est quoi pour avoir le moins de douleur ? Celle qui vraiment occasionne aucune douleur comme position éventuellement ?
Alors aucune, tout dépendra bien sûr de l'origine de la douleur, mais si on est sur des positions comme cela, des positions douloureuses qui sont des positions sur toute la partie dorsale du vagin, eh bien, ce sont effectivement plutôt celles qui vont solliciter la partie ventrale, donc celles de face à face, pour pouvoir avoir, puisque le pénis bandant vers le haut, eh bien, évidemment, ce sont toutes les positions qui vont amener vers le pénis vers la partie ventrale, côté ventre du vagin, qui va du coup être moins douloureux. Donc en fait, c'est à chacune d'observer s'il y a simplement c'est l'entrée, c'est la profondeur. Certaines ont peur dès que ce sont des positions profondes au niveau du col de l'utérus ou dorsale, et évidemment ne pas évacuer tout de suite la partie qui pourrait être microbienne et qui du coup nécessite un examen gynécologique.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils, on vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans notre grand dossier du jour, on va s'intéresser à l'un de nos organes qui mesure 11 cm à peu près. Je veux bien sûr vous parler du rein. Il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour éliminer les déchets de notre corps, mais vous verrez que nos reins ont des pouvoirs extraordinaires. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipée sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, vous restez avec nous pour l'équipée sauvage, 16h-18h. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que vous adorez. Comme moi, adolescent, vous buviez votre bol de Nesquik en regardant C'est pas sorcier. On reçoit Jamy Gourmaud qui publie, tu l'as dit, Jamy, une aventure scientifique pour tous en BD, pour répondre enfin à toutes les questions de vos enfants.
On sera à l'écoute, promis Mathieu, avec le bol de Nesquik. Bonne émission, restez sur Europe 1.